Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices engagés dans les questions de l'écologie et de solidarité à Marseille. Nous sommes en direct ce mercredi 16 novembre 2022 de 19h à 20h et l'émission sera diffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Je suis Chloé et ce soir je suis accompagnée de Marin.
Bonsoir.
Avec mon studio et d'Arthur qui est en régie.
Bonsoir.
Et ce soir nous avons le plaisir de recevoir à la radio la table de Cana avec Julia.
Bonsoir.
Et Clara.
Bonsoir.
Alors ce soir nous allons commencer l'émission d'une manière un peu particulière puisque nous avons un de nos animateurs, Marin qui est avec nous ce soir, qui souhaite nous partager une lettre sur la saveur. Vous verrez que ça fera écho et le lien avec notre invité par la suite.
C'est effectivement une petite introduction dont j'ai pas envie de vous commenter en amont et qui s'appelle « À la muse que l'on n'attendait pas ». J'ai cherché le grand amour sans te trouver à en crier comme un désespéré. Tu t'es pourtant là comme une évidence sans mot dire depuis des années. Avec tes couleurs d'Algérie fantasmées de mon enfance perdue, comment aurais-je pu ne pas chercher en toi mon salut? À force de tes appels de phare, je suis venu chez toi comme jadis César. Contrairement à Ulysse, je n'ai pas eu la force de résister au chant de tes sirènes. En marin, j'étais fait pour jeter mes amarres dans tes entrailles en capitaine. Splendide et brutale, tu es mon Amazone, ma passionnée, ma passionnante. Je te dis mienne, alors que n'appartiennent à personne tes dorures scintillantes. Indépendante, digne et fière, tu es Notre-Dame. Tu gardes nos cœurs fragiles du vallon de nos soupirs de quidam. Pour toi, je pourrais me battre à en pleurer, à en appeler aux armes, à en perdre la raison, à être radicalement ce que je suis, autant que tu es, entière, fière et sans compromission. Quand je te vois te draper de la soie d'Orient, de velours de beauté, et de ton teint hâlé d'un soleil couchant, en moi tu fais monter d'irrémédiables pointes rouges de timidité. Dans la galaxie des jolies femmes, tu m'as muse indomptable, mon étoile, ma lionne, qui trône mon cœur en Babylone. Massif comme ces diamants qui font le firmament de ta mosaïque de couleurs et de senteurs, celle du canapé et des petits savons de douceur. Coquette et rebelle, comme une amante au grand cœur. Tu es ma madone, mon Olympe, mon idole. Dans tous mes états, tu me mets menu. Pourtant, Liesse m'avait bien prévenu. Tomber amoureux de toi, c'est comme tomber amoureux d'une pute, d'une cagole. Pour chanter avec toi un amour tranquille, il n'y a bien que Marcel Pagnol. Parfois, je veux te jeter aux crottes comme on jette aux galères. Dégage des spots de République bananière. Tu crois que tu m'impressionnes à jouer les dures et les mafieuses? Quand tu deviens brûlante comme un volcan, à t'en rendre odieuse. Chaque jour, je pense à m'en aller vacant. Tu ne me crois pas? Ose prendre les paris, et j'irai reprendre l'océan. J'ai peine de ta misère et m'inquiète de ton penchant scabreux pour les coins malfamés. Ta légèreté coupable te joue des tours. Tu le sais, le subis, et t'effondre plus d'une fois dans ton parcours. Je t'en supplie de prendre un peu soin de toi, mon amour. Il est juste d'admettre que tu n'es pas faite pour suivre la sagesse des anciens, les préceptes de tes aïeuls grecs, les phocéens. Tu portes en toi les déchirures de tes plaques tectoniques intestines. Tu as les marques de brûlure du soleil et la tine. Tu claques la vie comme le vent secoue tes châles à chaque printemps. Et pourtant, tu te relèves toujours. Quand je te hais, tu sais me charmer de grands discours. Quand tu me craches à la figure, c'est pour mieux me reprendre la main, telle une magnétique danseuse de tango argentin. Tu es ma belle du Seigneur d'Albert Cohen. Bien que d'Albert, Camus et Londres soient plus ton domaine. Tu es comme ça. Tu as mis la culture à une place capitale pour faire vibrer en moi le souffle de l'épopée sociale. Tu m'embrumes de tes tours de magie pour te rendre indispensable dans tes excès lorsque tu m'offres tes délices jolies joliettes d'une belle fleur de mai. Telle Ève, tu m'as fait croquer la pomme. Tu m'enivres de ta passion, de ton poison. Avec toi, la coupe est toujours pleine de rhum. Pour toi, je bâtirai des châteaux en Espagne et irai jusqu'à la castagne. Tu feras de moi un roi, je te porterai à la grandeur des déesses, celle de Gyptis et de Mercédès. Sur tes chiffons d'azur et tes nuits dorées, j'écrirai ton nom et ton amour de la liberté. Pour toi, Marseille, ma bien-aimée.
Eh ben, merci beaucoup, Marin, pour cette grande déclaration d'amour à la ville de Marseille. Ville de Marseille qui est pleine de passion, qui est une ville libre, qui est pleine de saveurs. On dit que c'est la ville aux mille saveurs. Et ça fait écho aussi à tous les projets et tous les invités qu'on peut recevoir ici à la radio. Comme nos invités ce soir, tu parles de beaucoup de saveurs, de senteurs, et c'est en lien avec la table de Cana, puisqu'on parle d'un traiteur, un restaurant engagé. Et ce soir, pour en parler, on reçoit Julia, qui est donc responsable développement depuis quelques années, et Clara, qui est chargée de communication. Donc, on ne vous connaît pas pour le moment, et nos auditeurs, auditrices non plus. Peut-être que vous pouvez vous présenter ce beau projet.
Avec grand plaisir. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle entrée en matière avec ce poème qu'on ne connaissait pas. Et merci beaucoup pour cette invitation à venir mettre en lumière le projet porté par la table de Cana ici à Marseille. Donc effectivement, moi, Julia, ça fait plus de 2 ans que j'ai rejoint la table de Cana en tant que responsable du développement. Responsable du développement, c'est un grand... titre qui veut dire beaucoup, tout et n'importe quoi. Et en réalité, ce que je fais à la table de Cana, c'est de développer l'activité de la structure tous les jours pour qu'on puisse notamment continuer à développer notre activité et à exister. On en parlera un peu plus tard, mais donc on est un traiteur engagé, entreprise d'insertion. Et donc moi, je m'occupe de développer l'activité de restauration collective parce qu'on fait du traiteur avec des grands événements, mais on est aussi là pour préparer des repas pour les salariés marseillais, les organismes de formation, plein de structures marseillaises. Et donc on fournit les repas de la pause méridionale. Et donc moi, je m'occupe de développer et de coordonner cette activité à la table de Cana. Je suis également en charge avec Clara, ici présente, de la partie communication, parce que c'est important de faire des choses, mais c'est aussi important que les personnes le sachent, parce que finalement, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses, mais que si on le garde pour nous et qu'on n'interagit pas avec notre écosystème, finalement, l'impact il va rester moindre. Et également, je m'occupe de toute la politique RSE, donc en termes sachant responsabilité sociétale des entreprises, et en réalité c'est développer l'impact environnemental et social de la table de Cana et m'assurer que notamment notre projet environnemental il soit bien mis en œuvre au sein de notre structure.
Large mission. On aura l'occasion de pouvoir rentrer dans ces détails plus précisément. Et pour continuer le tour de table, peut-être qu'aussi Clara, tu veux nous présenter un petit peu ce que tu fais. Et après, on vous demandera aussi qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites maintenant. Mais je te laisse la parole tout de suite.
Merci Marin. Moi, comme l'a dit Julia, je suis chargée de communication avec Julia. Et notre objectif, en fait, est de faire rayonner les valeurs de la table de Cana. Faire rayonner notre activité pour sensibiliser un maximum de personnes et pouvoir nous développer.
Merci. Est-ce que vous avez envie, avant vraiment de rentrer dans le fond des travaux que vous menez, de présenter vos parcours, parce que ça nous semble pertinent pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, de pouvoir un peu savoir quelles ont été les trajectoires qui vous amènent à travailler là où vous êtes aujourd'hui dans un métier qui est plein de sens, et on pourra le détailler, cette question du sens, après. Voilà. Est-ce que ça a été un parcours linéaire? Est-ce qu'à un moment, vous êtes remis en question en vous disant en fait, ce que je suis en train de faire n'a aucun sens? La parole est à vous.
Effectivement, moi, j'ai un parcours assez atypique. Moi, j'étais avocate avant d'arriver à la table de Cana. J'étais avocate, j'ai fait des études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence. J'ai fait un master spécialisé en droit de l'environnement. Donc c'est un sujet qui me passionne toujours et c'est notamment aussi pour ça que j'ai rejoint la table de Cana, parce qu'il y avait aussi, au-delà du projet social, il y a un vrai projet environnemental. J'ai passé le barreau de Paris, j'étais avocate pendant 3 ans et en fait c'était pas de cette manière-là que j'avais envie de faire changer les choses. Déjà je me sentais hyper limitée dans mon pouvoir d'agir et pas à ma place. Et donc j'ai fait aussi une réflexion en me disant bon ben j'ai envie d'avoir un métier aujourd'hui avec du sens, j'ai envie de me lever tous les matins en me disant que ben, je suis là où je dois être pour faire avancer les choses et aussi ben, voir devant moi le monde que j'ai envie de voir se construire. Et donc j'ai d'abord rejoint une start-up sociale et environnementale qui s'appelle Yoyo. Et j'ai développé le projet de Yoyo à Marseille. Et le but, c'était justement de sensibiliser à la pollution plastique et aux gestes de tri avec un sujet qui revient vachement, qui est la gamification du geste de tri. Donc, c'est comment on peut être rétribué ou, pour son geste de tri. Et là, c'était sur le sujet du plastique et notamment dans les quartiers prioritaires de Marseille. Et donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Marseille. C'est plutôt en rentrant plutôt par les quartiers nord parce que c'est là où j'ai commencé à travailler. Et ensuite, il y avait certes une volonté sensibilisation environnementale, mais il y avait aussi un vrai projet social et c'est ça derrière qui m'a séduit et qui m'a donné envie de rejoindre la table de Cana. Comment aussi. On peut, à son niveau, penser une société plus inclusive et montrer qu'il y a aussi d'autres modèles économiques possibles que seulement une finalité économique. Mmh. Et de montrer qu'en fait, il y a d'autres modèles alternatifs possibles.
En tout cas, si je peux me permettre, j'ai pas l'impression que ce parcours soit si atypique que ça. On reste quand même dans le même registre de la nature, de l'environnement, les fruits et légumes, les avocats, les poissons, le bar, et protéger l'environnement. C'est beaucoup de billes pour justement mener à bien ces choses. Je pense que justement faire du droit, c'est la base de tout pour pouvoir avoir des armes et se battre dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Avoir les bons outils pour pouvoir avancer et faire quelque chose. Et c'est beau de te voir là aujourd'hui utiliser ces armes pour faire quelque chose qui a du sens pour toi et essayer d'avoir le plus d'impact dans ton travail. Donc, merci pour...
3 cinquièmes de ces personnes autour de la table sont des juristes parisiens qui sont venus faire leur pas de côté à Marseille.
Il y en a un peu trop. Hein.
Mais oui, ça donne quand même beaucoup d'inspiration de voir que parce que tu y crois, tu t'es laissé porter par le cœur et que finalement tu as montré que le passage d'un point qui pouvait être confortable vers quelque chose de plus de l'ordre de l'inconnu, quand bien même c'était au départ l'appel du cœur, te permet de te stabiliser dans quelque chose qui a du sens et qui tient la route, ce qui peut parfois être un énorme frein quand on se dit « Ok, moi j'ai envie de partir parce que mon travail ne me plaît pas, mais pour aller où ?» Et « Ah, j'ai peur » parce qu'il y a toujours des freins économiques, le frein de la pression sociale, etc. Donc c'est un bel exemple. Et j'espère que certaines oreilles attentives qui nous écoutent ce soir sauront se laisser porter par ce témoignage.
Avis à tous les juristes et personnes en droit, changez de modèle, allez vous battre pour l'environnement, pour faire avancer, pour le droit de l'environnement par exemple. Il faut se battre pour l'environnement, personne ne se bat pour...
Mais si, on est 5 autour de cette table. Et du coup Clara, est-ce que tu as aussi envie de nous présenter ce qui t'amène à travailler à la table
et... Oui, alors moi, mon parcours est un peu plus simple. J'ai fait des études d'économie et ensuite, j'ai rejoint une école de commerce. Et après une école de commerce, on peut faire plein de choses, c'est génial. Mais surtout, ce que je voulais, c'était, comme tu l'as dit, Julia, tu as repris mon expression, mais je voulais me lever le matin en me disant que j'allais changer les choses et que je contribuais, entre guillemets, au bien commun, au bien de la planète, au bien de notre société. Et la table de Cana incarnait toutes ces valeurs. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je suis très heureuse de travailler au sein de cette entreprise.
Super. Alors du coup, pour changer les choses le matin, comment est-ce qu'on s'y prend à la table de Cana? Parce que quand on regarde votre site, on voit à quel point vous avez des engagements qui sont divers et variés. Si nous, on essaye un petit peu de les ranger pour les rendre faciles à expliquer, je vous le présenterai évidemment. Peut-être qu'on peut prendre un peu trois angles, les anciens angles de ce qu'on appelait le développement durable, même si en tant que tel, c'est une expression qui peut être de plus en plus questionnée, mais avec au moins un plan environnemental, un plan social et un plan économique qui sont en interconnexion et qui permettent de faire un écosystème qui soit à la fois sain et durable. Est-ce que vous voulez un petit peu nous présenter, peut-être d'abord dans son ensemble, les différents chantiers, pans, équilibres que vous avez, et puis après on peut rentrer dans quelques détails, quelques projets concrets que vous menez en ce moment?
Complètement, avec plaisir. Déjà, il faut savoir que la Table des Canards est présente sur le territoire marseillais depuis près de 30 ans. Donc, on était notamment un peu précurseurs sur le sujet de l'inclusion. Aujourd'hui, l'inclusion, les sociétés inclusives sont un peu mangées à toutes les sauces et hyper à la mode. Et nous, on était là bien avant que ce soit à la mode. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur communiquer sur ce qu'on fait, parce que il y a énormément de structures qui aujourd'hui parlent d'inclusion dans leur manière de fonctionner. Et à la Table de Cana, c'est vraiment notre cœur, notre vision et notre cœur d'activité, dans le sens où à la Table de Cana, on forme et on accompagne chaque année près de 30 personnes sur des métiers en tension qui sont aujourd'hui les métiers de la cuisine et de la restauration. On en parle de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a énormément de métiers autour de la restauration et connexes qui sont à pourvoir. Donc pour nous, c'est un peu du pain béni, dans le sens où on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir mettre en avant les talents qu'on forme à la Table de Cana, qui peut-être il y a quelques années, quand il y avait un peu moins de besoins à pourvoir, les structures venaient peut-être moins vers nous. Et aujourd'hui, on peut leur montrer que ces personnes qui sont passées par la Table de Cana sont au même niveau que d'autres, avec justement des parcours peut-être un peu moins atypiques. Et donc à la Table de Cana, donc on forme des personnes qu'on appelle nous éloignées de l'emploi. Ce sont des personnes en fait qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit tremplin pour pouvoir retrouver le chemin de l'emploi plus classique, ou même pour certaines une formation. Et donc les personnes, on va les accompagner sur une durée de 2 ans à peu près, sur des métiers de la cuisine, donc aide de cuisine, aide pâtissier, mais aussi chauffeur livreur, préparateur de commandes, et même on a 2 assistants commerciaux également en insertion au sein des bureaux. Et donc toutes ces personnes, on va nous leur transmettre le savoir-faire qu'on peut avoir en fonction des différents services, en cuisine, en livraison, dans les bureaux. Et on va aussi les accompagner pour les aider en fait à lever les différents freins qui peuvent aujourd'hui les empêcher de pouvoir accéder à l'emploi. Ça peut être des freins au niveau du logement, de la scolarité de leurs enfants, de la langue française, toutes ces problématiques-là qui aujourd'hui peuvent être tellement parfois importantes qu'elles passent au-dessus de aller chercher un emploi, parce qu'on a des problématiques plus importantes à résoudre. Et à la Table de Cana, on accepte les gens avec tous ces sujets-là, en leur disant que justement on est aussi là pour construire avec eux leurs projets professionnels et les accompagner sur toutes ces questions sociales.
Et c'est des formations certifiantes ou...
Alors, on est en cours justement pour pouvoir que ça le devienne, exactement. Aujourd'hui, le fait que la Table de Cana est présente sur le territoire depuis plus de 30 ans et que savoir-faire qui est reconnu.
Ouais.
Exactement. C'est en tout cas ce qu'on essaye nous aussi de promouvoir, c'est que une fois qu'on est passé à la Table de Cana, quand on en sort, on en sort avec un véritable savoir-faire. Et aujourd'hui, oui, exactement, c'est ça qu'on essaie de promouvoir.
Oui, parce qu'on parlait de droit tout à l'heure, et justement pour devenir un organisme certifiant et pouvant accréditer pour pouvoir faire des formations, je suppose qu'il y a toute une démarche à faire et à prouver pour que devenir cet organisme-là et qu'il soit reconnu.
Complètement. On a aujourd'hui notre équipe ressources humaines d'insertion qui travaille à ce sujet avec notre directrice pour qu'on puisse le devenir et justement que ça puisse venir asseoir tout le travail qu'on fait aujourd'hui.
Au final, vous le faites déjà, mais juste vous n'êtes pas reconnu
pour le travail que vous faites.
Alors, pas reconnu, enfin, tout est sur une question de reconnaissance.
Officiellement, officiellement, je me rectifie. Merci, Marin.
Non, ouais, parce que justement, c'est la question aussi, peut-être qu'on pourra en parler après, des imaginaires, c'est quoi la reconnaissance. Mais du coup, pour rester là où on est vraiment sur la portée sociale, ces personnes que vous accompagnez, est-ce qu'on peut avoir quelques idées de combien sont-ils ? Est-ce que c'est des promos que vous recrutez, on va dire, tous les deux ans et où en fait, il y a un vrai esprit de corps qui se forme ? D'où viennent ces personnes aussi ? Alors là, vous dites que c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais est-ce que vous allez essayer d'aider certaines personnes plus particulièrement pour participer à éviter de laisser certains groupes de population s'enfermer quelque part dans une forme de précarité ?
Alors on est hyper ouvert dans le sens où on a vraiment tous les types de publics à la table de Cana. Ça va de 18 à 60 ans, hommes, femmes. On a principalement des personnes, notamment de par notre positionnement, c'est-à-dire que nous, on est dans le 16e arrondissement de Marseille. Donc le but aussi, c'est de créer du lien avec le territoire sur lequel on est implanté. Donc on a quand même une majorité de personnes qui viennent plutôt de ce territoire-là. Et après, ce sont différentes typologies de personnes, entre guillemets. Ça peut être des femmes plutôt issues de ce territoire-là, 15e, 16e arrondissement de Marseille, qui n'ont jamais travaillé, qui pensent n'avoir aucune compétence. Et en fait, c'est des femmes avec des savoir-faire incroyables et qui ont besoin peut-être juste de reprendre confiance en elles parce qu'elles n'ont jamais travaillé, qu'elles ont élevé leurs enfants. Et en réalité, elles ont travaillé toute leur vie. Et donc, la table de Cana, c'est un peu un tremplin pour peut-être une prise de conscience et derrière pouvoir rebondir et trouver un emploi. Ça peut être des personnes beaucoup plus jeunes. Et ça, on en a aussi depuis le Covid, qui, de par la pandémie, se sont un peu
isolés.
Exactement, perdus, isolés, qui ont besoin d'un coup de pouce aussi pour essayer de construire leur projet professionnel. De plus en plus, on voit également qu'on a des personnes réfugiées. Parce que la table de Cana, on est aussi au cœur de ce sujet-là, dans le sens où on est aussi, on accueille toutes les personnes. Et aujourd'hui, les situations politiques qu'on connaît tous, il y a de plus en plus de réfugiés sur notre territoire et notamment à Marseille où on est aussi ville d'accueil. Et donc, on a aussi on peut avoir des chefs réfugiés qui ont envie d'apprendre la cuisine française et de pouvoir rebondir en restant sur leur métier qu'ils pratiquaient déjà dans leur pays. Et on a également d'autres personnes qui faisaient peut-être autre chose avant et puis pour qui la table de Cana et les métiers de la cuisine, c'est un bon tremplin.
Je devine dans ton explication différents programmes dont on a parlé en amont de cette émission. Et je te propose que c'est des programmes qu'on puisse présenter plus en détail après avoir fait notre premier tour de piste. Et peut-être maintenant, Clara, est-ce que tu as envie de nous présenter vraiment ce qui se fait, par exemple, sur la portée environnementale ou Julia ou l'une des deux. Voilà, le deuxième pilier que vous mettez vraiment en avance. Vous appelez ça les saveurs sur votre site et pourtant, quand on clique dessus, on se rend compte qu'en fait, derrière le mot saveur et engagement environnemental, il se trouve le fait que tout est bio, tout est local. Est-ce que vous voulez...
Les déchets sont tracés, ils sont gérés en circuit court, à 100%.
Tout à fait. En fait, on a une... le sujet, c'est de se dire... Ok, la table de Cana, on a au cœur de notre mission d'avoir un impact social, de par le travail d'insertion qu'on fait avec les salariés. Mais pour nous, c'est impossible de dissocier l'impact social de notre projet environnemental, dans le sens où pour nous, les deux vont de pair et on n'imagine pas avoir... une activité économique sur laquelle on ne prenne pas en compte l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'environnement. Et le but vraiment de cette démarche environnementale, c'est de minimiser au maximum l'impact que pourrait avoir notre activité sur l'environnement. Et donc pour ça, on a vraiment une réflexion sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Ça veut dire... En tant que traiteur, depuis la production, c'est-à-dire d'où viennent nos produits. Ensuite, d'où ils viennent, donc, c'est-à-dire essayer d'aller sur un approvisionnement le plus local et le plus bio. On n'est pas à 100% bio aujourd'hui, parce qu'il y a plein de sujets. Mais par exemple, notre chef, il est... plutôt sensible au fait que ce soit du local, parce que ça peut être du bio, mais aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'il y a tout un sujet autour du bio qui va venir de très loin et qui va être fabriqué, produit de manière plus industrielle. Nous, on est aussi sur, on a envie de travailler avec des acteurs locaux du territoire, donc il y a ce côté responsable aussi.
Et aussi du prix de la certification bio, parce que pour beaucoup d'agriculteurs ou de maraîchers, il faut payer la certification bio, ce qui a un coût, ce qui amène à des papiers, à des vérifications, à des audits. Et c'est compliqué pour ces personnes-là de pouvoir fonctionner et d'avoir un business rentable avec ces charges de travail en plus. Donc c'est tout simplement pas rentable d'en faire pour eux. Et parfois, on trouve des produits locaux qui sont en pratique bio, on appelle ça raisonné, mais qui n'ont pas l'étiquette bio.
Complètement, c'est pour ça qu'on essaye de tous les jours pratiquer un arbitrage entre on prend du bio, on prend du local, parfois français, voilà, enfin ça va être tout un arbitrage pour
de saison.
Exactement. Mmh. Voilà, par exemple de saison, c'est quelque chose sur lequel on travaille et en interne. Sur de la communication interne, sur de la sensibilisation auprès des salariés sur les produits de saison. Et après aussi auprès de nos clients, sur pourquoi en hiver, quand on fait de la restauration collective, y a beaucoup de choux, y a des épinards, il n'y a pas de tomates. Et voilà, et c'est aussi un travail de sensibilisation qu'on essaye de faire auprès de nos clients. Mmh. On travaille avec beaucoup de centres sociaux et centres aérés marseillais. Et donc voilà, on essaye aussi de faire ce travail de sensibilisation là sur les produits de saison, les repas végétariens. On propose des repas végétariens dans les menus de la restauration collective toutes les semaines, mais aussi sur la carte traiteur où on essaye de proposer de plus en plus des mets végétariens. Et voilà, sur notre carte aussi, on essaye de sensibiliser les clients parce que ça permet aussi de mettre des produits de qualité.
Et en fait, quand on touche à la question du local, et donc là, on est sur le volet environnemental, on se rend bien compte qu'on arrive aussi sur un rapport économique, où finalement, c'est tout un écosystème d'interdépendance qui se crée avec d'autres structures sur le territoire, où vous parvenez à impulser une dynamique un peu alternative qui montre qu'il est possible de pouvoir mettre en place des cercles assez vertueux qui ont des impacts minimes en termes d'utilisation de ressources et d'atteinte à la biodiversité, tout en ayant, pour le coup, un impact très favorable, tant d'un point de vue environnemental que de faire tourner cette boutique locale. Est-ce que vous avez envie un peu de présenter la façon dont vous arrivez à faire en sorte que vous ayez un modèle économique qui tienne?
Oui, alors la table de canard, donc on est entreprise d'insertion, mais on est une entreprise commerciale. Et notre but, c'est vraiment de trouver cet équilibre économique sur pouvoir vendre nos prestations, traiteurs, restauration collective, à nos clients, à nos entreprises marseillaises, puisque à 90% nos clients, ce sont des entreprises. Et de pouvoir le faire de manière responsable, c'est-à-dire de pouvoir proposer des produits de qualité, donc trouver une offre qui réponde à la demande de nos clients, et tout en étant une société inclusive où tout le monde peut trouver sa place à la table de Cana. Et donc effectivement, c'est un équilibre économique qui est... qu'il faut réussir à trouver, qu'on a réussi à trouver à la table de Cana depuis quelques années, et dont on est hyper fiers, parce que ça nous permet de montrer que c'est un modèle économique qui est possible.
Et est-ce qu'on peut dire que ce modèle économique, il essaye d'être régénératif avec tout cet impact social et environnemental que vous essayez soit de minimiser ou soit d'avoir un aspect positif autour de là où vous êtes implanté?
Oui, on essaye au maximum. Enfin, je pense de par l'ancrage territorial et l'histoire de la table de Cana avec cette mission sociale qui est vraiment ancrée, le but, c'est effectivement de créer un maximum d'interactions avec effectivement les acteurs du territoire. Et on en parlait encore hier avec notre directrice en se disant il faudrait que sur un mur de la table de Cana, on fasse une énorme fresque pour vraiment en fait se dire, recomprendre où est-ce que sont, qui sont les parties prenantes de la table de Cana, qui sont toutes les structures avec lesquelles on travaille aujourd'hui, les entreprises, et comment justement bah, on peut continuer à se développer sur ce modèle-là, d'avoir au-delà des clients, bah, c'est aussi des partenaires qui vont faire aussi appel à nous parce qu'ils ont envie de soutenir aussi ce modèle-là d'insertion ou environnemental en fonction des sensibilités de chacun.
On parlait justement d'impact, et justement c'est un choix engagé, et comme toi qui as choisi de travailler à la table de Cana parce que tu veux te lever avec un sens, c'est aussi le choix de vos clients. Et je pense que ça, c'est la transition parfaite. Je ne sais pas si tu voudrais introduire la musique.
Peut-être que juste avant d'introduire la musique, effectivement, une des transitions, c'est que là, on a bien présenté aussi, on va dire, l'ensemble, la grande photo, comme les Anglais appellent ça, et qu'après la pause musicale, on pourra aussi se projeter dans des projets dans des projets concrets en fait que vous mettez en place et qui nous permettent de voir comment est-ce qu'en mettant la main à la pâte, eh bien vous arrivez à mettre tout ce que vous nous dites en musique. Donc du coup, pour la musique, je vous laisse nous la présenter.
Alors on l'a choisi. On était en train de se dire avec Lara, est-ce que c'est toi qui présente la musique ou c'est moi, parce qu'on s'est beaucoup amusé à essayer de trouver une musique qui fasse écho à la table de Cana et je pense à un peu à l'état d'esprit de notre équipe quand on se retrouve tous les matins. Il y a une ambiance particulière à la table de Cana. Parfois on s'amuse à l'appeler planète table de Cana parce qu'il y a une vraie cohésion dans l'équipe et je trouvais que cette musique ça nous représentait bien entre on est là parce que la nourriture c'est à la table de Cana, on aime la préparer parce que c'est des repas généreux et qu'on a envie de partager et on trouvait que cette musique elle faisait bien écho.
Et cette musique donc c'est Quand l'appétit va, tout va de Obélix.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croquent et grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Les sangliers d'Obélix.
Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, font jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va.
Les choses d'idées fixes.
Obélix, mon cher amour, je t'empirerai toujours. Mais le roi des rois, désormais c'est toi. Quand Obélix va, tout va.
Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va.
Thank you.
pas sans fromage. C'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage. Une forêt sans écureuil.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand l'appétit va,
tout va.
Veuillez rendre hommage
au glorieux fromage.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand le chameau passe, hélas, quand le chameau passe, hélas, il nous faut demander sa sobriété. Quand le chameau passe, hélas.
Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin.
Quand la petite va, tout va. Quand la petite va, tout va. Vite les quenottes qui prend du grignote. Quand la petite va, tout va. Ne l'oubliez pas, brave Jean, la petite vient en mangeant.
Puis dans les futailles, y'a nous la ripaille. Quand la petite va, tout va.
Venez d'écouter Astérix et Obélix et vous êtes de retour sur Radio Galère. Vous écoutez toujours Écoforum au 88.4, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des actions engagées sur les questions environnementales, solidaires et culturelles à Marseille et sa région. Et vous êtes toujours avec Clara et Julia de la table de Cana. Et après avoir fait une présentation un peu générale de l'écosystème de la planète Table de Cana, comme vous nous le présentiez juste avant la pause musicale, c'est peut-être le moment de pouvoir présenter plus dans la projection certains projets que vous menez et qui nous permettent un petit peu d'avoir un goût, une saveur de ce que vous menez. Et l'un de ces projets est un projet extrêmement récent. Si ma mémoire ne flanche pas, il a été lancé hier et il s'appelle Les Beaux Mets. Alors, je ne vais pas expliquer beaucoup plus. Je vous laisse le soin de nous présenter ce que c'est que les Beaux Mets.
Tout à fait. On est pile poil dans l'actualité et le timing du projet, puisque le restaurant Les Beaux Mets a ouvert effectivement hier au sein de la prison des Beaux Mets à Marseille. Et c'est un restaurant d'application et au sein duquel une douzaine de détenus en fin de peine sont formés au métier de la cuisine, donc en cuisine et en salle. Et ce restaurant est ouvert au grand public. Donc nous, on est allé tester en avant-première avec Clara il y a quelques jours le restaurant. Et désormais, il est ouvert à tous. Et donc le but, c'est de pouvoir former ces détenus qui sont en fin de peine au métier de la cuisine et de pouvoir également construire avec eux leur projet d'après. Aussi de démystifier le milieu carcéral en permettant de créer des ponts entre l'intérieur des prisons et le monde extérieur. Mmh. Et ce projet, il a été monté par l'association Festin, qui est l'association de la Table de Cana, en fait, qui est notre actionnaire majoritaire, si on rentre dans le détail. Mais en tout cas, Table de Cana, on a un peu deux casquettes. Une entreprise d'insertion. On va être vraiment un acteur économique et on va porter ce projet de traiteur d'insertion professionnelle. Et notre association Festin, qui va porter des projets tels que le restaurant des Beaux Mets. Et là, effectivement, on va être également dans un projet vraiment partenarial pour que les personnes, pour qu'il y ait des liens entre ce restaurant des Beaux Mets et par la suite à l'extérieur la Table de Cana.
Alors du coup, les gens qui vont au restaurant des Beaux Mets, c'est qui le public ?
Ce sont des entreprises, des particuliers. Il y a des petites formalités forcément parce qu'on va rentrer dans un milieu en détention, donc il va falloir fournir un certain nombre d'informations parce qu'il y a une vérification qui est faite puisqu'on rentre quand même dans un milieu un peu particulier. Mm-hmm. Mais au-delà de simples formalités, n'importe qui va pouvoir aller déjeuner au sein du restaurant des Beaux Mets.
Ok, donc ça veut dire que nous, on peut faire un déjeuner d'équipe au restaurant des Beaux Mets de la prison des Beaux Mets.
Complètement.
Ok.
À planifier, en effet.
Non, mais pour le coup, ce qui est incroyable, c'est que alors là, vous jetez des ponts entre des univers qui probablement ne, ne communiquent pas beaucoup plus les uns avec les autres et permettent effectivement, vous qui parliez de planète Cana, de montrer qu'il y a des interactions qui peuvent se faire avec des univers qui peuvent être très éloignés.
Mais c'est vrai que c'est un écosystème des saveurs et aussi du lien. Et là, c'est vraiment à l'image de ces valeurs et de cette envie de créer du lien avec ce milieu qui est quand même qu'on connaît peu finalement.
Et donc, qui est vachement mystifié aussi.
Oui, aussi. Oui.
Qui, surtout que la prison des Baumettes en particulier, avec celle de Fleury-Mémarangis en région parisienne, c'est les deux très grosses prisons hyper connues de France, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. C'est chouette. Mais alors en plus, ce qui est vachement bien, c'est que tu nous disais en off que vous aviez entre 60 et 70% de personnes qui sont accompagnées par la table de Cana et qui derrière arrivent à retrouver un emploi par la suite. Et donc du coup, c'est vraiment une phase de transition qui peut faire tremplin par la suite. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de cette facilité que vous donnez en fait aux personnes qui travaillent avec vous dans ce projet ou dans d'autres pour ensuite être réemployés ou employés ailleurs?
Ben, je pense qu'il y a un gros travail d'accompagnement qui est fait par notre responsable ressources humaines qui est vraiment là pour accompagner et penser avec le salarié. Enfin, vraiment, on fait vraiment un accompagnement hyper personnalisé pour chaque personne. Et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne, c'est qu'il y a un vrai lien qui se crée et que les salariés se sentent aussi dans une zone de confiance dans laquelle ils peuvent se révéler. Et c'est ça, je pense que ça, c'est le travail le plus... le plus incroyable qui est fait à la table de Cana. Je pense que ça aide vraiment les personnes à se révéler. Et aujourd'hui, on aime à dire que la table de Cana, c'est un pourvoyeur de talents, dans le sens où les personnes, elles rentrent chez nous, elles ont besoin d'un tremplin. Et c'est assez incroyable, nous, quand on a des histoires, comme ça, où les personnes, derrière, elle retrouve le chemin de l'emploi, que ce soit dans la restauration collective, en traiteur, en restauration, et parfois aussi en formation. Et c'est là où justement on crée un nouveau lien avec un autre projet qui est aussi porté par l'association Festin, qui s'appelle Des étoiles et des femmes.
Je voulais en parler justement.
Et du coup, qui permet à 12 femmes issues des quartiers prioritaires de Marseille, ça ce sont les critères d'entrée, pouvoir passer le CAP cuisine en un an en partenariat avec le lycée hôtelier de Bonneveine à Marseille. Et donc pendant un an elles vont passer donc ce CAP, être accompagnées aussi parce que ce sont des femmes, elles ont aussi des problématiques qui peuvent être plus spécifiques. Parfois ce sont des femmes seules avec enfants, donc il y a des problématiques de garde. Et donc on va avoir aussi une personne qui va être là pour les accompagner et les aider à trouver des solutions pour justement leur permettre de pouvoir suivre cette formation. Et là où moi je trouve que cette formation est encore plus incroyable, c'est que ce CAP cuisine, ces femmes, elles vont le passer tout en étant accompagnées par des restaurants gastronomiques ou étoilés de Marseille. Donc ce projet, il a été monté il y a quelques années avec Alain Ducasse, qui aujourd'hui n'est plus dans le projet, mais en tout cas qui l'a lancé. Et donc le but aussi, c'est de montrer à ces femmes-là que oui, elles peuvent avoir accès à ces cuisines, qui sont, il y a aussi un sujet autour de ça et de l'accès aux cuisines gastronomiques par les femmes. Et en plus de ça, quand on ne vient pas forcément de ce milieu-là, donc le but aussi, c'est de pouvoir casser des plafonds de verre et leur montrer qu'elles ont toute leur place aussi dans cet écosystème.
C'est des imaginaires que vous participez à rendre plus fertiles, quels que soient les interacteurs, enfin les interacteurs c'est pas un mot, les interlocuteurs que vous avez en face de vous, parce que visiblement vous êtes face à des entrepreneurs, des personnes qui sont incarcérées, des personnes qui viennent des quartiers défavorisés, qui sont extrêmement loin de l'emploi. Vous leur donnez la capacité de pouvoir se retrouver les uns avec les autres, discuter. Vous avez encore un autre projet qui s'appelle...
Il y a des entreprises aussi, si je peux me permettre.
J'ai parlé des entrepreneurs quand même.
Entrepreneurs, ce n'est pas la même chose que les entreprises.
C'est pas la même chose que les entreprises, oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une compréhension mutuelle qui est rendue plus riche et plus dense de la part de chacune de ces personnes en se rencontrant et surtout en faisant ensemble, au-delà d'être juste là à se rencontrer, vraiment de pouvoir être dans un projet commun.
Ben forcément, ça permet de créer des ponts entre des milieux parfois qui se seraient peut-être jamais rencontrés ni côtoyés. Ça permet de démystifier, que ce soit quand on parlait là justement du projet des Baumets ou encore des restos étoilés en donnant l'accessibilité à des femmes issues du milieu défavorisé. Et même, ça c'est nos projets un peu plus spécifiques, et si on repart sur l'activité de la table de Cana, de restauration collective, également de traiteur, le traiteur ça a aussi quelque chose de participer à un projet où on va préparer, produire de la cuisine pour des cocktails, pour des grandes entreprises, et également de faire partie de toute cette production, de cette effervescence quand on va devoir produire ces repas, ces buffets, ces cocktails. On sent que chaque salarié qui va y participer, ça leur permet de se mettre en valeur aussi et de
prendre leur place.
Exactement, ouais. Et confiance en soi, quoi, en se disant que en arrivant dans une cuisine où il y a près de 20-25 personnes, parfois on est un peu aussi perdu, il faut prendre le rythme, on est quand même dans des cuisines professionnelles, donc parfois ça peut aussi être un peu effrayant ou déstabilisant, et quand au fur et à mesure nous on les voit se transformer, mais aussi ils se rendent compte que ça y est, ils ont pris leur place, c'est hyper gratifiant pour eux et aussi pour les encadrants en cuisine qui vont les accompagner à faire tout ce travail-là.
Je pense que là, tu nous sèches un peu parce qu'on est là et on t'écoute, on se dit waouh. Non, moi, il y a quand même une question. Alors là, peut-être que ça serait plus pour aller vous titiller. Vous me permettez de vous titiller ?
Allez-y.
C'est quand on est sur les questions environnementales, forcément, à un moment, on parle de transition. Quand on parle de transition, on interroge un peu les causes, etc. Et on arrive souvent sur des questions économiques et notamment liées à qui détient la richesse et au fait que les classes qui possèdent beaucoup sont celles qui devraient redescendre finalement. C'est d'ailleurs un des livres de Bruno Latour qui s'appelle Atterrir. Il nous invite quand on est vraiment beaucoup trop haut à remettre un peu les pieds sur terre. Et alors du coup, une de mes questions titillantes, c'est quel est le positionnement par rapport à des grands hôtels de luxe et par rapport à des restaurants étoilés ? Parce que finalement, c'est aussi... là, c'est vachement mis en avant parce que ça permet de donner un sentiment de retrouver ou tout simplement de trouver confiance en soi, de permettre d'avoir cet écosystème qui peut aussi permettre de le payer. J'imagine qu'il doit y avoir les moyens pour faire ça. Et en même temps, ça le maintient. Ça maintient peut-être certains niveaux de vie qui peuvent être incompatibles avec le respect des 2 tonnes de CO2 par an. Je ne sais pas si vous voyez le sens de la question.
Ouais,
et
complètement.
Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ?
Je pense que nous, on a cette réflexion-là. Et d'ailleurs, on se remet hyper souvent en question sur où est-ce qu'on veut aller, comment on veut le faire, c'est quoi notre impact, quel but on veut avoir, avec qui on veut travailler, comment on veut le faire. On a, je pense, cette capacité... au sein de la table de Cana, à hyper facilement se remettre en question et se re-questionner sur tous ces sujets-là. Et notamment, on l'avait il y a quelques jours en discutant avec l'équipe traiteur et notamment commerciale, parce que on est 45 à la table de Cana et il faut aussi que ça tourne et qu'on ait des prestations et qu'on les vende, ces prestations-là. Et donc c'était aussi de se dire, ok, on veut les vendre, mais comment est-ce qu'on veut les vendre et à qui on veut les vendre ? Et on se rend compte aujourd'hui que... alors déjà sur nos clients et de grosses entreprises marseillaises, on a vraiment créé, c'est pour nous c'est pas que des clients, c'est des partenaires, on va vraiment créer un lien avec elles, au-delà du simple fait de leur de juste créer une relation de prestataire ou sous-traitant et client. Sur cette partie-là, et je pense qu'aussi les entreprises marseillaises qui viennent nous chercher, elles ont aussi envie de travailler avec la table de Cana parce que aujourd'hui il y a aussi une remise en question et une volonté, alors que ce soit une volonté intrinsèque des dirigeants ou des salariés, ou parce qu'elles se rendent bien compte qu'aujourd'hui, si elles veulent continuer d'exister, et de pouvoir continuer à conserver les marchés qu'elles ont, ben en fait, elles sont aussi forcées de le faire. Donc, nous, que ce soit parce que ce soit une, enfin, qu'il y ait une vraie volonté de base et que ce soit dans la mission de la structure d'aller chercher des partenaires comme la Table de Cana, ou parce qu'il y a aussi une remise en question de ces entreprises-là, d'aller travailler vers d'autres types de fournisseurs, ben finalement, on se dit que si l'objectif et les valeurs se rejoignent, on a aussi envie d'avoir ce rôle-là. Et je pense que c'est un peu la même réflexion qui est faite quand on travaille avec des restaurants gastronomiques ou étoilés. C'est aussi une volonté de leur part de pouvoir accueillir un public avec qui ils ne travaillent pas forcément à la base, de pouvoir travailler avec un public qui est aussi plus féminin. Enfin, y a aussi une remise en question quand on vient... rentrer dans le programme des étoiles et des femmes, c'est-à-dire d'avoir aussi plus de parité en cuisine.
Ça me fait penser aussi à la démarche du chef Thierry Marx. Je ne sais pas si vous avez eu écho de son travail qu'il peut mettre en œuvre justement dans l'insertion, la réinsertion aussi. Je ne sais pas si la Table de Cana a eu à travailler ou va travailler en collaboration avec ce chef.
On n'a pas travaillé directement avec lui, mais cet hiver, on a travaillé avec une jeune photographe culinaire qui, me semble, a suivi un programme d'accompagnement avec lui.
Oui, il me semble qu'il a ouvert, pareil, une école pour rendre accessible ce métier de chef et tous les métiers qui va avec. Ouais.
Des écoles ou des projets qui vont dans une direction comme ça, un peu d'écosystème, et notamment autour de l'alimentation à Marseille, il y en a quand même... J'ai pas envie de tous les citer, mais de tête, il pourrait y avoir les paysans urbains, il peut y avoir ici les grandes tables, il peut y avoir l'école Être qui vient de se créer, le Présage, et encore d'autres.
Le République.
Les fermes du roi d'Espagne. On s'arrête là, on sait qu'il y en a encore plein d'autres. Et justement, une des questions qui pouvait se poser, c'est que vous disiez tout à l'heure que vous étiez là depuis 30 ans, enfin que la Table de Cana existe depuis 30 ans, et que vous étiez bien avant qu'il y ait cette mise en mouvement vers des projets plus inclusifs et plus écosystémiques. Un projet un peu historique dans ce sens-là. Et quand vous disiez que c'était pas client prestataire, mais vraiment partenaire, est-ce que vous avez le sentiment de réussir à embarquer un certain nombre de structures avec lesquelles vous travaillez, vraiment dans le fait qu'au-delà même du fait qu'elles veuillent travailler avec vous, qu'elles s'inspirent de ce que vous mettez en avant comme modèle alternatif pour qu'elles-mêmes, dans leur propre façon de faire, commencent un peu à se transformer. Est-ce que vous voyez un peu ça, notamment parce que sur une frise un peu historique, vous pouvez voir entre les années 90, 2000 et maintenant, j'imagine quand même qu'il y a il y a eu des grands changements qui ont eu lieu.
Nous, on le... Enfin, alors depuis 30 ans, depuis les années 90, j'aurais du mal à retracer ça. Mais nous, ce qu'on... Enfin, la passerelle qu'on essaye de créer entre, on va dire, des entreprises plus classiques et des entreprises comme la Table de Cana, c'est le côté pourvoyeur de talent. C'est-à-dire que nous, on essaye aussi, quand on sait que certaines structures sont en train de recruter, de nous dire, nous, on a des salariés qu'on a formés, qui sont prêts, qui sont fiables, qui pourraient complètement venir répondre à vos besoins. Et donc, c'est là où nous, on essaye de créer des passerelles avec ces entreprises-là pour qu'elles viennent aussi recruter dans des entreprises comme la Table de Cana qui s'attellent à former des personnes au métier de la cuisine. C'est dans ce sens-là où on essaye, nous, à notre niveau, de faire bouger les lignes, peut-être sur l'insertion et le recrutement de ces personnes.
Mmh. Alors, sur la question du recrutement, puisque là, il ne nous reste plus que 2 minutes, peut-être que vous avez quelques appels ou bien à vos partenaires de dire est-ce que vous voulez devenir encore plus partenaire avec nous, ou bien un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées pour... venir suivre des formations avec vous. Voilà. Si jamais vous avez quelques informations pratiques pour vous retrouver ou des événements que vous voulez organiser prochainement.
Complètement. Alors nous, on a deux choses peut-être que j'aimerais vous partager. Alors ça fait un peu promotion, mais en même temps, on est là aussi le service communication. Non, on fait un gros travail aussi de communication, que ce soit sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux où forcément on communique sur les offres de traiteurs qu'on tous les jours qu'on produit, mais aussi sur notre vivier de talents qui est formé tous les jours à la Table de Cana. Donc plus les personnes vont aussi nous suivre et plus ça va nous permettre d'avoir un impact important. Et c'est avec Clara, on en parlait au début de l'émission, le travail qu'on essaye de faire tous les jours, c'est de communiquer. Et aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est une super vitrine pour pouvoir mettre en avant notamment la qualité aussi des mets qu'on produit, parce qu'on essaye de partager les préparations culinaires qui sont tous les jours produites à la Table de Cana sur les différents réseaux. Noël approchant, on a notamment avec des partenaires du territoire, parce que le but, c'est toujours de faire avec les autres structures, on a confectionné des colis de Noël pour les salariés d'entreprise, et on est allé justement nous sourcer rencontrer les différents partenaires avec qui on avait envie de travailler, et on a confectionné donc des colis de Noël avec des entreprises comme Le Village, situé à Cavaillon, qui va faire du glanage dans les champs des agriculteurs et ensuite qui va transformer avec des personnes éloignées de l'emploi. On va travailler pareil avec Local en Bocal, qui va travailler avec les invendus également des agriculteurs. On va travailler avec la Banana Cabos, qui est un chocolatier marseillais qui transforme tout dans ses ateliers, depuis la fève jusqu'au chocolat, un apiculteur aixois aussi. Donc on est allé rencontrer chacune de ces structures pour pouvoir proposer des super colis de Noël. Donc si vous avez envie de tester ces produits et de soutenir la Table de Cana, vous pouvez passer par nous.
Ce qui est beau, c'est que vous nous donnez cette petite touche sucrée, et donc ça nous permet de boucler la boucle de cette émission avec la saveur au début, au milieu et à la fin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour
cette belle présentation et l'envie de partager avec vous ces mets. Bonne soirée.
Bonne soirée.
À très bientôt, Julie et Clara.
Merci
et on rend l'antenne.
Merci.
Merci.